les mois de janvier et février, eh bien, on n'a pas la boule de cristal encore, hein, sur les conditions météorologiques en particulier. Est-ce qu'il fera froid? Est-ce qu'il y aura du vent? Pas de vent? Pour autant, avec les données dont on dispose aujourd'hui, eh bien, on considère que on n'est pas dans des disponibilités de la production qui permettent d'évacuer tout risque par rapport à la sécurité d'approvisionnement, mais sans générer une alerte très très forte à ce sujet-là.
Y aura-t-il de l'électricité pour Noël? Oui, bien sûr. Le réveillon ne sera pas plongé dans le noir, mais à entendre Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation chez RTE, le transporteur d'électricité, il ne faudrait pas qu'il fasse trop froid l'hiver qui vient, car le contexte se tend pour ce qui est de l'approvisionnement, suffisamment préoccupant pour que le gouvernement demande hier des gages à EDF. Deux réacteurs nucléaires mis à l'arrêt avant-hier et aujourd'hui dans les Ardennes, en plus des deux de Civaux dans la Vienne et des opérations de maintenance sur d'autres réacteurs qui ont pris du retard pendant la crise sanitaire. Pas idéal alors que les prix du marché de gros s'affolent sous l'effet de la reprise économique et des industries grosses consommatrices d'électricité qui tournent à plein régime. Le nucléaire, planche de salut, garantie d'indépendance malgré la lourde maintenance qu'impose la prévention des accidents, source d'énergie décarbonée et en même temps de déchets radioactifs. La Commission européenne est en train de trancher le débat. On devrait savoir mercredi prochain si le nucléaire rejoint ou pas le club des énergies vertes éligibles au soutien des financements écologiques. En France, la filière se met en ordre de marche. Elle recrute des soudeurs, des chaudronniers. Elle espère que les commandes de nouveaux réacteurs évoquées par Emmanuel Macron interviendront en tout début d'année prochaine et se réjouit d'ores et déjà que la majorité des candidats à la présidentielle se prononcent en faveur du nucléaire.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine écho du samedi matin, un magazine préparé comme chaque semaine par Valentin Pérez, réalisé par Céline Hilla. C'est Alexandre Chenet qui est avec nous en régie et Thomas Langlin au mixage. Les vacances commencent, les fêtes et les cadeaux se préparent. Vous en avez peut-être commandé quelques-uns sur Amazon ou au contraire, vous boycottez. Question sensible. En tout cas, le patron d'Amazon France, Frédéric Duval, sera notre invité dans une demi-heure. Tendance de fin d'année, mais aussi investissement, empreinte carbone, fiscalité, nous avons beaucoup de questions à lui poser. Nous écouterons aussi le reportage d'Anaël Verzo qui est parti prendre des nouvelles des commerçants de centre-ville à Creil, 35 000 habitants dans l'Oise. Elles ne sont pas très bonnes. Emmanuel Macron a fait son bilan économique pendant près de 2 heures à la télévision cette semaine. On a évidemment regardé et on va en débattre. Bonjour Laurent Bigorgne.
Bonjour.
Directeur de l'Institut Montaigne et bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour.
Éditorialiste, alternatives économiques. Exercice globalement réussi, selon vous, par le chef de l'État?
Bof.
Bof pour Christian.
Écoutez, moi je trouve que 2 heures d'émission politique, c'est un peu long, mais ensuite, pour ceux qui s'y intéressent, il y avait des choses, oui.
On en débattra, merci, à tout de suite. Nous irons faire un tour à Londres. L'économie britannique sous le coup d'Omicron, un an après le Christmas Deal. L'accord intervenu à Noël dernier sur le Brexit, un an après, ça ne va pas très fort chez nos voisins britanniques. Et bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Fabien.
Votre chronique Ma vie au boulot tout à l'heure à 10h05.
Oui, avec deux questions de Thierry et d'Anne-Sophie sur les remboursements de frais de déplacement et de télétravail, puisque les deux sujets vont de plus en plus ensemble.
Voilà, vous avez le programme, place au débat.
Bonsoir Monsieur le Président.
Bonsoir. Regardez ce qui a été fait. Nous avons supprimé la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Nous avons mis en place une prime d'activité. Nous avons augmenté de 100 euros par mois l'allocation adulte handicapé. Le minimum vieillesse, pareil.
On a vu ce soir un exercice d'autosatisfaction.
Éric Ciotti.
Mais la réalité, si on se compare avec tous les pays d'Europe...
Les Républicains.
Nous sommes le pays qui payons le plus d'impôts. Nous sommes le pays où la dette est quasiment la plus élevée, à 3 000 milliards d'euros de dette.
Est-ce que vous pensez que j'aurais dû relancer une réforme des retraites? Cette réforme, elle est indispensable. Il est clair qu'il faudra travailler plus longtemps.
Après le quoi qu'il en coûte budgétaire, c'est le quoi qu'il en coûte sur le plan social.
Yann Brossat, Parti communiste.
Quoi qu'il en coûte... socialement, c'est ça la réalité. Et ce qu'il prévoit, c'est un retard de l'âge de départ à la retraite.
On change les règles, on rend le travail beaucoup plus incitatif et on dit qu'il ne faut pas travailler 4 mois, mais 6 mois dans l'année pour avoir droit au chômage.
Pas un mot pour la révolte de la jeunesse sur le climat, pas un mot pour le vivant.
Delphine Bateau, Europe Écologie Les Verts.
Parce qu'il y a un quinquennat d'échec d'Emmanuel Macron, donc certainement une volonté d'occulter cette question dérangeante.
Si vous réindustrialisez le pays, ce qu'on est en train de faire, vous proposez des emplois, vous pouvez intégrer.
Je note une forme de déconnexion entre le discours du président de la République qui contente son bilan et la réalité de ce que vit le pays.
Jordan Bardella, Rassemblement National.
On peut parler des 60% de taxes que paient nos concitoyens lorsqu'ils vont faire le plein de carburant, par exemple, à la pompe. On peut parler des 50% de taxes lorsqu'ils règlent leur facture d'électricité.
Je veux simplement qu'on retrouve la culture de reconnaître le succès et de savoir le célébrer. On sait le faire dans les arts, on sait le faire dans le sport. Pourquoi ne pas le faire dans l'économie ?
Bilan et perspectives dressés par le chef de l'État mercredi soir en ce début de fin de quinquennat. On va les détailler, les discuter ensemble. Christian et Laurent, commençons par le travail et les retraites. Il est clair qu'il faudra travailler plus longtemps, nous dit Emmanuel Macron. Êtes-vous d'accord? Les retraites doivent-elles être un enjeu de la prochaine présidentielle? Christian, en fait, vous êtes prêt à bondir.
La citation complète du président de la République, c'est « Comme nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps ».
Absolument.
Et vous me demandez si c'est clair, et non, c'est vraiment pas clair du tout, parce que ça va à l'encontre totale de la dynamique historique entre 1870 et 2020, donc sur un siècle et demi. S'il y a une règle qui s'applique, c'est bien la règle inverse de ce qu'a dit le président de la République. Notre espérance de vie a été multipliée par deux, et notre temps de travail divisé par deux sur la période. Donc la règle historique, c'est en même temps qu'on vit plus longtemps, on travaille moins longtemps. Donc ça, c'est l'inverse. Alors vous me direz, ouais, c'est facile, 1870 jusqu'à l'année d'après-guerre, il n'y avait pas un système par répartition.
J'allais vous le dire, Christian, c'est facile.
Voilà, il n'y a pas un système par répartition où les gens qui travaillent, on leur prend des cotisations pour les rendre à ceux qui sont, par exemple, à la retraite. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'on va passer de 1,7 cotisants par retraité à 1,3 d'ici 50 ans. Ça veut dire quoi en termes de besoin de financement? Bah là, moi, je m'appuie sur le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a dressé 12 scénarios avec toutes les hypothèses possibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que sur les 12, il y en a 9 où le régime de retraite est en excédent à moyen long terme. En excédent, un régime de retraite, ça n'a pas vocation à être en excédent, ça a vocation à être équilibré. Et 3, pour les pires scénarios, sur 12, où pourrait y avoir un déficit qui est compris entre 0 et 0,6 points de PIB. C'est-à-dire, si vous imaginez que d'ici là, la dette française, je dis n'importe quoi, elle est à 100% du PIB, ce sera 100,6 points de PIB. Donc, rien du tout insignifiant.
Alors, Laurent, qu'est-ce qui est plus compliqué, selon vous, sur les retraites?
D'abord, j'aimerais dire qu'il y a vraiment rien de nouveau dans ce qu'a dit le président de la République, puisque le 12 juillet dernier, quand on était encore à se poser la question de savoir s'il y aurait une réforme des retraites et par quelle voie de passage avant la fin du quinquennat, le président nous avait déjà dit il faut travailler plus. Il avait sans doute déjà en tête la retraite à 64 plutôt qu'à 62 pour l'âge de départ. Il nous avait déjà parlé de la suppression des régimes spéciaux avec ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire plutôt pour les nouveaux employés, comme ça a été fait à la SNCF en 2018. Et puis, il nous avait parlé d'ailleurs, et c'était là aussi intéressant, d'un rehaussement du minimum de pension à 1 000 euros pour toute carrière complète au SMIC, sachant qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pendant le quinquennat, par exemple au bénéfice des agriculteurs, dont on sait qu'ils ont des pensions très faibles, pour pouvoir revaloriser leur minimum. Rien de nouveau non plus par rapport à ce que nous dit la Cour des comptes sur la situation du déficit, parce que quand on entend 0,6 points de PIB, on se dit c'est pas beaucoup d'argent. Enfin, 0,6 points de PIB, ça fait 13 milliards. C'est le déficit qu'on a actuellement quand on cumule le régime général, quand on cumule le fonds de solidarité vieillesse et les régimes complémentaires des salariés du privé.
On ne les puis, trouve pas comme ça, c'est ce que vous voulez dire.
Ouais, ça fait de l'argent. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, parce qu'on reporte cette question, j'allais dire, de quinquennat en quinquennat. On l'a reporté sous Sarko, on l'a reporté sous Hollande. On n'a pas traité sous ce quinquennat. Il y a la question de la dépendance, de la perte d'autonomie et du grand âge qu'il faudra bien financer un jour. Donc, on ne peut pas raisonner seulement en fonction des déficits d'aujourd'hui qui sont plus importants, en tout cas, pour ma part, je souligne que ce que nous dit Christian, il faut aussi penser aux nouveaux risques à financer demain, parce que ça aussi, c'est de l'argent.
Alors, le président nous a quand même aussi parlé d'un projet de réforme future remanié avec trois branches. Il est rentré un petit peu dans les détails. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette esquisse?
Non, mais on a vraiment, on n'en sait pas grand-chose. On va attendre 2022. Vous nous posiez la question, Fabien, est-ce que c'est bien de parler de la réforme des retraites au fond ou en élection? Je pense que pour le coup, c'est une bonne chose que les différents candidats arrivent avec leur projet, qui doit nécessairement ne pas être seulement un projet comptable, mais aussi de vision. On sait que le président de la République va sans doute présenter un projet s'il est à nouveau candidat, où il nous dira qu'il faut travailler plus longtemps. Valérie Pécresse a déjà dit les choses, elle s'est prononcée pour 65 ans contre, je le rappelais tout à l'heure, 62 aujourd'hui. Le Rassemblement National, la France Insoumise sont eux pour 60 ans. Il y a fort à parier que la retraite va être au cœur du débat de la présidentielle.
Renoncer à l'instauration d'un régime unique, Christian, pour tous les salariés, ça vous semble raisonnable?
Le président de la République a justifié ça en disant qu'il faut simplifier, parce qu'on a je ne sais pas combien de régimes spéciaux.
faut juste rappeler quand même que tous ces régimes spéciaux très compliqués, c'est 1,6% des cotisants. Donc on va pas nous faire encore une usine à gaz et mettre des millions de gens dans la rue, tout ça pour régler un problème. Enfin, le président de la République voit un problème là où il n'y en a pas, ça concerne 1,6% des cotisants. Rappelons-nous quand même pourquoi on a tous ces régimes spéciaux, parce qu'on a tardé en France à mettre en œuvre un régime général de la retraite et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient conserver leurs salariés et qui leur ont offert des choses, des régimes de retraite qui étaient bien plus intéressants que ce qui était offert au sortir de la guerre. La Cour des comptes vous a dit, prenez toutes les gros régimes spéciaux, en fait c'est SNCF, RATP, EDF, GDF, ça coûte un peu plus de 5 milliards d'euros de soutien public et là-dedans, 70% s'expliquait par la démographie, comme pour le reste c'est simplement 30% pour ce qui est des régimes spéciaux. Donc le président de la République voit un problème là où il n'y en a pas.
Laurent, vous êtes forcément pas d'accord.
Je pense qu'il y a une dimension qui n'est pas seulement budgétaire. Effectivement, 30% de 5 milliards, ça fait à peu près 1,8 milliard. Donc oui, c'est pas une somme considérable. Il y a une dimension symbolique. Parce que derrière, quand on transforme le régime spécial en âge de départ, c'est un âge de retraite à 56 ans à RATP, c'est 58 à Engie, à EDF. Et il faut dire aussi, le moment où on a négocié ces régimes spéciaux était un moment où on pouvait imaginer qu'il y avait du travail très pénible dans ces entreprises. Ça n'est plus, j'allais dire, la façon dont ces entreprises fonctionnent aujourd'hui. Et comme ces entreprises sont gagées par des ressources notamment publiques, moi je trouve qu'il est normal qu'on aille vers l'alignement. C'est une question d'équité. Je suis d'accord avec Christian, pas besoin d'en faire un totem politique. On vient de le faire sur la SNCF en disant on va éteindre au fond le statut à partir de 2020, c'est la réforme de 2018. Eh bien, je pense qu'il faut le faire de façon un peu méthodique. Et puis comme ça, il y a un moment où on arrêtera de nous parler de ce programme.
Mais au-delà de ces situations particulières, il y a aussi la question plus générale de l'emploi des seniors. Le chef de l'État y a fait référence aussi. Il faut repenser le travail des seniors. Pourquoi et comment, selon vous?
Alors comment, j'en sais rien. J'attends que le futur candidat nous dise. Mais pourquoi, oui, là, il a raison, le président de la République. Un vrai sujet. En 2020, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 62 ans et demi pour les hommes, c'est 63 ans pour les femmes. Et généralement, quand on dit ça, les gens disent « Ah bah, la fin de carrière, c'est 62 ans et demi pour les hommes et 63 ans pour les femmes. » Non, c'est faux. C'est pas l'âge. L'âge où on liquide ses droits à la retraite, c'est pas l'âge de fin de carrière. Tout le monde travaille pas, malheureusement, jusqu'à ce qu'il ou elle puisse prendre sa retraite. Il y a un peu moins de 30% des gens qui ont à 60 ans sont soit sans emploi, sans retraite, sans pré-retraite. Comment ils vivent? En gros, 30% du chômage, 10% minimaux sociaux, un quart des revenus de leur conjoint ou prime d'invalidité ou allocation adulte handicapé. Donc il y a un vrai problème.
Alors, autre chapitre dans l'intervention du président, mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches, a-t-il insisté. Que pensez-vous de cette mise au point, Laurent?
Oui, mais je vais vous embêter, je vais revenir un instant sur ce qu'a dit Christian, parce que c'est vraiment rapide. Important. On n'est pas bon sur ce sujet-là, on est beaucoup moins bon que les États du Nord, et c'est pas seulement qu'un problème d'âge de départ à la retraite, c'est un problème de formation, c'est un problème d'accoutumance à des départs anticipés, c'est un problème d'âge légal, mais c'est un problème qu'il va vraiment falloir traiter, parce que là aussi, c'est comme la dépendance, on ne le traite jamais. Sur le président des riches, on peut dire que le président Macron, il a le sentiment, comme Sarkozy, après le bouclier fiscal de 2007, de porter une croix, qui est celle du début du quinquennat. Maintenant, quand on regarde...
C'est pas qu'une impression.
Comment?
C'est pas qu'une impression.
C'est un peu qu'une impression.
Non, parce que la croix.
Oui, ensuite, c'est perception is reality, comme on dit en mauvais français. Mais en réalité, quand on regarde, par exemple, et on va en discuter, j'en suis sûr, Christian, la note du Trésor parue à l'automne 2021 sur, au fond, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'achat des Français, son évolution différenciée en fonction de l'appartenance au décile de revenus, c'est-à-dire en fonction du revenu des Français sur le quinquennat. On trouve que sur l'ensemble du quinquennat, il y a une progression du pouvoir d'achat des ménages. Alors, on pourra en discuter, est-ce qu'il y a 8%, est-ce qu'il y a 4%,
selon les études.
Il y a des divergences, mais globalement, on reconnaît qu'il y a une progression et qu'elle est très significative par rapport aux deux quinquennats précédents. Et maintenant, ce qu'on voit, et particulièrement après la crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y a un rééquilibrage très fort après la crise des Gilets jaunes et encore cette année en 2022 en faveur de ce qu'on appelle les déciles les moins riches, c'est-à-dire de ceux qui ont les revenus les moins importants. Et moi, j'ai une perception qui est pour le coup vraiment équilibrée des mesures qui ont été prises, soit d'allègement fiscal, soit effectivement en faveur du pouvoir d'achat, notamment de ceux qui gagnent le moins en France. Et on a des études à la fois du Trésor, de l'Institut des politiques publiques qui présentent, je trouve, un profil équilibré en fin de quinquennat.
Laurent, sur le pouvoir d'achat.
Christian, moi, c'est
Christian.
L'Institut des politiques publics plutôt que de rester comme le Trésor sur les déciles, les 10%, va sur les centiles, les 1%, 2%, 3%. Et là, l'Institut des politiques publiques nous dit qu'entre 2017 et 2022, pour les 5% les plus modestes, ils ont perdu du niveau de vie. Pour les 1% les plus aisés, ils ont vu leur niveau de vie s'accroître de 2,8% et de 4,1% pour les 0,1% des très riches. Je vous donne juste un seul exemple. Suppression partielle de l'ISF, 3,5 milliards d'euros de recettes perdues. Dans le même temps, suppression partielle des aides personnalisées au logement, 3,7 milliards retirés aux plus modestes. Vous enlevez 3,7 milliards aux pauvres, vous donnez 3,5 milliards aux riches. On comprend qu'il y a des hommes politiques qui veulent être Robin des Bois. Le président de la République, c'est le shérif de Nottingham. Il prend aux pauvres pour donner aux riches.
Il y a un décalage sur le pouvoir d'achat entre les chiffres et la perception autour du pouvoir d'achat, Laurent.
Il y a quelque chose qu'on sait sur le pouvoir d'achat, c'est que de toute façon, il n'y a pas un Français qui pense que son pouvoir d'achat a augmenté sur le quinquennat. Parce que ça, c'est une règle d'airain des sondages. C'est qu'en perception, les Français sont toujours, mais comme tous les peuples de la Terre, en situation de penser que leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Maintenant, on pourrait discuter à l'envie, effectivement, des différentes études qui ont été présentées. Je trouve encore une fois qu'elle présente un profil beaucoup plus équilibré en fin de quinquennat que la caricature que parfois on en donne.
Merci, merci beaucoup à vous deux, Laurent et Christian. Il est 9h29 sur France Inter et c'est l'heure de partir à Londres.
And by the way, tonight, on Christmas Eve, I have a small present for anyone who may be looking for something to read in that sleepy post-Christmas lunch moment. And here it is. This is a deal with our friends and partners in the EU.
Il y a un an, souvenez-vous, la grande question outre Manche, c'était « Y aura-t-il un accord Brexit pour Noël ?» Un Christmas deal a fini par être conclu de haute lutte après des mois et des années d'intenses négociations. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant permanent à Londres. Richard, un an après, quel bilan économique fait-on chez vous de cet accord de divorce avec l'Union européenne ?
Alors ça, c'est vraiment une question très compliquée. Il n'y a aucun bilan objectif, bien sûr. Et si vous vous fiez à Boris Johnson, évidemment, tout va mieux. Mais sur ce sujet-là, il ne faut pas se fier à Boris Johnson. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la catastrophe annoncée par les anti-Brexit. Le pays vit et avance. Les entreprises ne se sont pas effondrées. Il continue d'y avoir des échanges internationaux, en particulier avec l'Europe. Mais il y a des ralentissements, des gênes. Et c'est bien difficile d'y voir clair parce qu'en plus, nous sommes englués dans la pandémie qui masque un peu tout le reste. Prenez la pénurie de chauffeurs routiers que l'on a connu à la rentrée. C'était avant tout lié au virus, mais le Brexit a rendu la situation encore plus compliquée ici. En cascade ensuite, ces images d'étagères vides dans les supermarchés, mais il faut être honnête, c'était très localisé et très bref. Il s'agissait de retard plus que de pénurie. Sur la question de la main-d'œuvre, on sent les effets du Brexit dans certains domaines précis, dans le tourisme, la restauration ou dans les exploitations agricoles, la difficulté, voire l'impossibilité de faire venir des travailleurs européens avec, par exemple, des éleveurs de volailles qui ont considérablement réduit leur activité. Pour les repas de Noël, la dinde risque de venir de l'étranger.
De nouvelles restrictions de déplacement viennent d'entrer en vigueur entre la France et le Royaume-Uni. Richard, l'économie britannique tremble face au variant Omicron. Et voilà que la Banque d'Angleterre remonte son taux directeur face à l'inflation. Avis de gros temps chez vous, hein.
Oui, la période n'est vraiment pas enthousiasmante, c'est le moins que l'on puisse dire. Deux épidémies se superposent, celle du variant Delta, encore majoritaire dans le pays. Elle plafonnait, mais à un niveau élevé, et s'ajoute maintenant Omicron, le fulgurant. Sa propagation est sans précédent ici. Le pouvoir s'appuie sur la vaccination, en particulier sur la troisième dose, pour endiguer ce flot et maintenir l'activité économique. La majorité ne supporte pas l'idée que l'on puisse l'entraver, encore une fois, après quatre mois de confinement en début d'année. Boris Johnson s'est même offert une crise interne dans sa majorité en faisant adopter un pass sanitaire à la Chambre des communes. Il est loin donc de l'idée d'un nouveau confinement. Pourtant, si l'on écoute les experts médicaux qu'il conseille, ce serait plus sage. Mais les pressions politiques et économiques, pour l'instant, sont plus fortes.
Merci à vous, Richard Place, correspondant permanent de France Inter à Londres.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Hamza, un garçon de 12 ans, 1m50, tamat, brun aux yeux noirs, habillé d'un pyjama gris, d'un pull bleu et d'un manteau noir, a été enlevé à Fourquières-lès-Lens, 27 rue Pasteur, le 17 décembre 2021, vers 19h30. Le suspect, son père, 40 ans, 1m73, 110 kg, crâne rasé, a utilisé au départ un véhicule Renault Twingo blanc, retrouvé abandonné à Hénin-Beaumont. Il serait susceptible de circuler désormais dans un break foncé et de chercher à sortir du territoire national. Si vous localisez l'enfant ou bien le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou bien envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Bonjour Frédéric Duval.
Bonjour Fabien Cazot.
Vous êtes le directeur général d'Amazon France. On va parler avec vous consommation, achat de Noël, commerce, fiscalité, empreinte carbone. Ça en fait des sujets. Mais d'abord, il y a ce contexte sanitaire. On en parlait à Londres avec Richard Place qui pèse encore sur cette fin d'année. Qu'en pense le géant du e-commerce que vous êtes? Beaucoup disent que c'est une aubaine pour vous, pour les acteurs de la vente à distance. Vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Ce qu'on fait d'abord, dans un premier temps, dans un contexte sanitaire qui est celui que nous rencontrons, c'est de faire en sorte que nos employés soient en parfaite sécurité. Donc on a revu 150 process dans le détail pour faire en sorte que tous ces processus puissent être faits sans qu'il y ait de risque de contamination. Ça intègre évidemment les gestes barrières, ça intègre le port du masque, ça intègre des mesures de température, enfin ça intègre plein de choses.
Combien d'employés vous avez en France ?
On a 14 500 CDI en France aujourd'hui. Et puis ensuite, eh bien, on fait en sorte de pouvoir supporter à la hauteur de ce que nous pouvons faire, lorsque les commerces malheureusement physiques sont fermés, de supporter les Français partout où ils se trouvent et de supporter les entreprises qui souhaitent continuer à avoir une activité par l'intermédiaire de la marketplace.
Alors sur les tendances de cette fin d'année justement, comment ça se présente selon ce que vous savez?
Les tendances se présentent plutôt bien. On avait parlé beaucoup de pénurie à l'aube de cette fin d'année. En fait, il se trouve que avec une bonne anticipation avec nos fournisseurs, avec un bon travail de collaboration avec ces fournisseurs, eh bien on a réussi à faire en sorte que les jouets soient là, les produits culturels soient là, et donc je voudrais rassurer tous les Français, les choses se passeront bien et les cadeaux seront sous le sapin.
Les consommateurs et les vendeurs sont au rendez-vous, vous avez quelques chiffres?
On fait une très belle saison, on a fait un très beau Black Friday. Aujourd'hui c'était encore un petit peu tôt pour faire un bilan sur la saison, elle n'est pas encore finie, mais je dirais que les choses se passent très bien.
On reparlera du Black Friday tout à l'heure, mais selon vous, la France a-t-elle pris le virage du e-commerce? Est-ce qu'on peut le dire en cette fin 2021, peut-être à la faveur aussi de tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire?
Je pense que la crise sanitaire a été effectivement un moment qui a révélé que le e-commerce était un amortisseur économique pour des entreprises, et ça a été une prise de conscience pour certaines entreprises françaises qu'il fallait aller vers le numérique. Vous savez qu'on avait du retard. Cédric O disait à l'Assemblée nationale récemment que 72% des commerces allemands étaient digitalisés contre 30% des commerces français. Donc nous, on a une responsabilité dans cette transition. On veut aider les entreprises françaises à aller vers le numérique. On a mis en place ce qu'on appelle l'accélérateur du numérique. C'est une banque de formation qui sont complètement gratuites, disponibles en ligne. On a formé depuis le début de l'année, puisqu'elle a été mise en œuvre en décembre 2020, on a formé depuis une dizaine de milliers d'entrepreneurs qui veulent se découvrir le numérique, découvrir le web, découvrir le e-commerce, et d'autres, on est en train de les former.
On va y revenir. Commerce en ligne et commerce physique. L'État veille sur les grands équilibres. Bercy a organisé des assises du commerce en ce mois de décembre pour définir ce que le ministre Bruno Le Maire appelle un nouvel équilibre commercial français dans lequel chacun trouvera sa juste place. Suivons le micro de notre reporter Anaëlle Verzeau qui est partie à la rencontre de commerçants de centre-ville.
Je me trouve à Creil, dans l'Oise. Je me trouve dans la rue principale, rue de la République. Et là, il y a une résidence pour personnes âgées, les bords de l'Oise, un fleuriste, un supermarché Match. Et dans la rue de la République, je dirais que plus d'un commerce sur deux est fermé.
Pardon. Bonjour, mesdames. Excusez-moi, je me demandais... Où est-ce que je peux faire mes courses de Noël ici, d'après vous?
Les courses de Noël?
Ouais, pour acheter des vêtements, des livres.
Il y a Nogent,
mais c'est loin.
Il y a Auchan, vous prenez le bus.
Et je mets combien de temps en bus?
À peu près 15 minutes. Mais à Cora, non, c'est loin quand même. C'est mieux avec la voiture. Pour moi, c'est mieux avec la voiture. Vous faites comme ça, vous faites bien les courses pour le Noël.
Là, vous prenez tout ce qu'il faut.
Ah oui.
D'accord. Et à part ça, sinon dans le centre-ville, à Creil, ici, où est-ce que je peux aller?
Au centre-ville, je ne vois pas grand-chose. Hein.
Non, il n'y a pas.
Il n'y a pas?
Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que Match.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Rue de la République, il y a ce supermarché Match qui est bien ouvert. Et juste à côté de l'entrée, il y a plusieurs casiers de retrait de colis Amazon, des casiers jaunes orangés. Retirez vos colis ici.
Bonjour monsieur, excusez-moi, je fais un reportage.
Petit micro trop noir.
Ouais.
C'est ça ? Dites-moi.
Sur les commerces ici à Creil.
Ouais.
Je me demandais si vous faisiez vos courses ici, je veux dire les courses, les achats de vêtements, les cadeaux de Noël.
Non. Du tout. Non. Parce que l'offre, elle n'est pas assez diversifiée, tout simplement.
Je vois qu'il y a un point de retrait de colis Amazon, là. Vous pensez que c'est aussi un peu à cause de la concurrence
non,
d'Amazon ?
Non, pas forcément, parce que c'est complémentaire. En plus, comme moi, je suis dans le domaine.
Ah, vous êtes dans le domaine ?
Bah, du e-commerce, oui.
Mais pas d'Amazon ?
Non, pas d'Amazon, non. Donc, c'est pour ça que je dis e-commerce ne veut pas forcément dire concurrence au commerce physique. Au contraire, ça peut être un bon moyen aussi d'attirer des clients en récupérant leurs commandes dans le magasin, par exemple.
Votre prénom, c'est comment ?
Hicham.
Hicham,
voilà.
Ok.
Voilà,
un
voilà.
Grand merci.
Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Merci à vous aussi.
Ah, et juste à côté de l'emplacement pour retirer les colis Amazon, il y a des autocollants. Amazon, 98% de vendeurs fraudent la TVA, 57% du chiffre d'affaires dissimulé dans des paradis fiscaux.
Nous sommes donc à Creil, 50 km au nord de Paris. En arrivant à la gare, on longe l'Oise, on traverse un pont pour atteindre le centre-ville, où l'on trouve des kebabs, des épiceries, des banques, mais très peu de magasins. Vous l'avez entendu au micro de notre reporter, Anaël Verzo. Les habitants sont forcés d'aller dans la zone commerciale de Saint-Maximin, à 5 km, pour faire leurs courses. Rue de la République, on repart avec Anaëlle, retrouver Claire qui a fini par se résigner à fermer sa librairie. Elle s'appelait Entre les lignes.
Bonjour, merci beaucoup. Merci.
Je referme parce que sinon il y a des gens qui vont rentrer.
Ah, ils vont croire que c'est ouvert. Hop là, ça y est, c'est fermé.
C'est fermé.
Claire, depuis combien de temps vous avez fermé la boutique ?
On a fermé le premier samedi de juillet 2020.
Et je peux vous demander pourquoi vous avez fermé ?
Parce qu'on n'avait plus de clients. Moi, j'ai reculé l'échéance quand même longtemps. Mais on a besoin d'être rentable. On a un commerce, on a besoin d'être rentable. Quand il n'y a plus de clients, il y a un moment où ça ne marchait plus.
Pourtant, Creil, c'est une assez grande ville quand même.
Oui, 35 000 habitants. C'est une grosse ville.
Et il n'y a plus de librairie ?
Non, il n'y a plus de librairie. Il y en avait deux. Les deux ont fermé coup sur coup. Donc voilà, donc c'est un peu... triste. Hein. C'est triste. Hein. Mais on a fermé après Mariono, on a fermé après Carole et après Antonelle, on a fermé après Pause Café, on a fermé après Lilo Gourmandise, on a fermé après tout le monde. Non, c'est une hécatombe.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la désertification du centre-ville.
Alors, c'est multicause. Il y a la désertification du centre-ville parce qu'ils ont construit à la sortie de Creil à Saint-Maximin une énorme zone commerciale qui a explosé vers 2007-2008. Et là, à l'époque, vous aviez deux ou trois ouvertures d'enseignes, de gros machins, d'entrepôts par mois. Quoi. C'était.
Mais ça date déjà.
Ça n'arrête pas. Ouais. Mais depuis, on chute.
Est-ce que d'après vous, c'est aussi lié à la concurrence du commerce en ligne ?
Non, pas avant le Covid. Le Covid a favorisé le commerce en ligne. Ça, je pense que c'est une catastrophe pour tous les commerces physiques. Même les vêtements, des choses que... Enfin, je pensais qu'on ne pouvait pas les acheter sur Internet. Il fallait des choses où il faut essayer, les chaussures, les vêtements. Puis le livre, on aime bien quand même toucher, retourner, lire la quatrième de couverture, être conseillé. Mais en fait, non. On entend parler d'un livre, on veut ce livre. Donc, quelque part, des fois, il n'y a plus besoin de nous aussi.
Des fois, on a besoin de vous quand même.
Oui, mais heureusement, parce que je vois, Chantilly, ça marche. Hein.
Oui, vous avez une deuxième boutique à Chantilly qui marche. Et Chantilly, c'est pas très loin d'ici.
C'est à 10 km. Ah, mon comptable. Allô ?
D'accord.
Ici, c'était l'espace jeunesse. À côté, il y a l'espace pratique. Art, et puis contes et mythologies, littérature, sciences humaines, l'histoire en poche, et plein de cartons. Au sol, il y a une petite affichette, leslibraires.fr, librairie.com. La librairie Entre les lignes est désormais bien présente sur le net. Si nous savons que cela est indispensable aujourd'hui, nous espérons que vous continuerez à venir flâner dans notre librairie. Les commerces des centres-villes pâtissent de deux phénomènes. Le développement des centres commerciaux depuis une quinzaine d'années et plus récemment, l'intérêt croissant des consommateurs pour le commerce en ligne. En 2019, l'e-commerce représentait 9% du marché. En 2020, il a bondi à 14%. Et selon un sondage réalisé par la société Bonial, plus d'un Français sur deux prévoirait de faire ses achats de Noël sur Amazon. Emmanuel Leroc, le délégué général de Procos, qui regroupe 300 grandes enseignes, propose des solutions pour soutenir les commerces physiques.
Il faut qu'un produit qui est acheté par un client par Internet supporte la même fiscalité qu'un produit qui est vendu dans un magasin. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de taxes qui sont appuyées sur le foncier, sur le magasin, alors qu'il y en a peu sur les acteurs du web. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de comment on peut, peut-être avec le même niveau de fiscalité globale cumulé pour qu'il n'y ait pas de perte fiscale, répartir autrement la fiscalité pour s'assurer qu'on est dans cette équité.
Et pour vous, il ne faudrait pas taxer Amazon ?
Si on crée des taxes spécifiques sur un acteur donné, en réalité, il va y avoir potentiellement des taxes sur d'autres acteurs, et notamment des acteurs français. Donc le sujet, on ne peut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre sous l'angle de la... du fait de pouvoir s'assurer que le produit supporte le même niveau de taxe, quel que soit la manière, le canal de vente avec lequel le consommateur l'acquiert. Il faudra se poser la question un jour, probablement, de la livraison et du coût de la livraison. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il est logique qu'un consommateur paye le produit, parfois, quand il y a des abonnements notamment, le même prix sans bouger de chez lui et en se le faisant livrer, ou bien en se déplaçant dans le point de vente. C'est probablement pas le cas, donc il faudra s'en préoccuper. De même qu'effectivement, l'impact, je vais dire environnemental, mais pas seulement, en fait, le problème global... c'est que plus les gens se font livrer chez eux, moins ils vont dans les points de vente et moins ils vont dans les lieux de vie, moins ils vont dans les centres-villes. Et il ne faudra pas s'étonner ensuite que moins on est de clients, moins on est de commerce. Parce que c'est ça la réalité. Forcément, si on vide les lieux de leur flux à l'arrivée, on a ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est-à-dire des commerces fragilisés et de la vacance commerciale, avec un risque majeur, notamment dans les territoires les moins dynamiques ou les moins favorisés.
Alors, quelles sont les conséquences de ces changements pour notre modèle de société ? Yann Algan est membre du Conseil d'analyse économique.
En fait, on l'a chiffré en moyenne sur la période de 2015 à 2019. On a chiffré un peu l'équivalent monétaire de cette perte de bien-être suite à la disparition de lieux de socialisation. Et on l'estime à plus de 2000 euros par an, c'est-à-dire vous perdez pratiquement un mois de salaire moyen par an. Donc c'est vraiment conséquent et c'est d'autant plus important qu'au cours des 10 dernières années, quand même 8 petites villes sur 10 ont vu la disparition de commerces de proximité ou de lieux de socialisation dans leur centre-ville.
C'est comme si finalement un ménage gagnait aujourd'hui 2000 euros.
De moins suite à la perte de ces services de proximité.
Quand les commerces de centre-ville baissent le rideau, c'était un reportage d'Anaël Verzo. Vous êtes sur France Inter, on n'arrête pas l'écho, il est 9h46.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Hamza, un garçon de 12 ans, 1m50, tamat, brun aux yeux noirs, habillé d'un pyjama gris, d'un pull bleu et d'un manteau noir, a été enlevé à Fourquières-les-Lens, 27 rue Pasteur, le 17 décembre 2021, vers 19h30. Le suspect, son père, 40 ans, 1m73, 110 kg, crâne rasé, a utilisé au départ un véhicule Renault Twingo blanc, retrouvé abandonné à Hénin-Beaumont. Il serait susceptible de circuler désormais dans un break foncé et de chercher à sortir du territoire national. Si vous localisez l'enfant ou bien le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou bien envoyez un courriel à alerteenlèvement@intérieur.gouv.fr.
Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, on l'a entendu dans notre reportage à Creil et dans tant d'autres villes moyennes, le commerce de centre-ville est en souffrance, la crise sanitaire n'a sans doute rien arrangé, le mouvement était déjà engagé, il y a les grandes surfaces en périphérie des villes, mais il y a aussi la concurrence du e-commerce. Quel regard le patron d'Amazon France porte-t-il sur la disparition de tant de commerces physiques dans notre pays ?
Alors, au risque d'être de vous décevoir, je pense que l'e-commerce est une aide au commerce de centre-ville. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, un commerce de centre-ville a une zone de chalandise qui est limitée. Un commerce qui a une empreinte
zone de chalandise limitée dans un centre-ville, doit vendre en ligne en même temps et avoir, ce faisant, une extension de sa zone de chalandise à l'ensemble de l'Europe.
Mais
c'est
ce
que
très
nous
proposer.
C'est ce que nous proposons et c'est ce que nous souhaitons voir appliqué par l'ensemble des commerces français, qui, rappelons-le, sont beaucoup moins digitalisés que les commerces européens, et ce faisant, garder leur pas de porte en centre-ville. L'e-commerce est aujourd'hui un outil pour garder les commerces en centre-ville.
Mais est-ce que tout est digitalisable? Est-ce que tout est livrable?
Écoutez, il y a une grande partie de l'activité du commerce qui est digitalisable. La boucherie Maison Victor de Montélimar vend aujourd'hui sur Amazon.fr et fait 10% de son chiffre d'affaires sur Amazon.fr. Si une boucherie peut le faire à Montélimar, je pense qu'une grande partie des autres commerçants de France peuvent le faire aussi. Je prends un autre exemple. La papeterie Neveu au Havre, qui a vu le tramway installé dans sa rue, qui a vu une zone de sa zone de chalandise affectée par ses travaux, s'est mis au e-commerce. Elle a fait x3 grâce à la vente de crayons et d'articles de papeterie en ligne.
Et les autres, Frédéric Duval, ceux qui disparaissent, vous dites quoi, qui n'ont pas su se numériser, qui n'ont pas su évoluer avec leur
époque? Non,
leur
je juge personne, moi. Je juge personne.
Sans juger.
Je juge mais personne je leur dis. Essayez le e-commerce, c'est important. Venez sur l'accélérateur du numérique. Prenez des formations qui sont gratuites. Mettez-vous dans cette dynamique qui est celle du numérique. Vous n'allez pas cannibaliser votre zone de chalandise autour de chez vous. Les gens qui sont autour de chez vous préfèrent venir chez vous. En revanche, vous allez trouver des clients ailleurs et vous allez pouvoir, ce faisant, développer votre activité. Vous savez, les chiffres sont têtus. Une entreprise qui se met à l'e-commerce voit son chiffre d'affaires augmenter de 14% en moyenne. 85% des entreprises qui vendent physiquement et digitalement se déclarent être en meilleure santé que les autres. Donc, j'insiste, c'est important, parce que c'est un mouvement de fond. Les consommateurs changent de comportement, c'est important que nos commerçants aille dans cette direction et nous sommes là pour les aider.
Alors, on le disait tout à l'heure, le gouvernement a justement, sur ces questions, lancé des assises du commerce en décembre. Quelle vision du commerce défendez-vous? On entend cette idée de complémentarité. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde quand Amazon prend tant de place?
Oui, absolument. D'abord, Amazon ne prend pas tant de place. Je voudrais juste citer un chiffre.
Géant du numérique, il faut l'assurer.
Oui, mais c'est important de dire comment ça se passe. Le commerce en France, c'est 600 milliards d'euros par an. Amazon, c'est 7,3 milliards d'euros. Donc, c'est à peu près 1% du commerce en France. Donc, quand on dit qu'on est un géant, en fait, voilà les chiffres, on est à 1% du commerce en France. Pas plus. En ce qui concerne les assises du commerce en France, nous partageons parfaitement, effectivement, je partage les objectifs qui sont celles des assises du commerce en France. J'ai entendu les propos liminaires de Monsieur le maire, et Monsieur le maire dit il faut que nous fassions en sorte que le commerce en France, en gros, s'intéresse à face aux nouveaux défis qui sont en face de lui, et en particulier, il y en a un qui s'appelle la digitalisation. Eh bien, nous sommes au service du commerce en France pour aider les entreprises à se digitaliser.
Combien de commerçants vendent sur votre plateforme?
Aujourd'hui, 13 000 entreprises françaises, PME, commerce, vendent sur notre site et se développent, et c'est en train de croître. Vous savez, comme on en forme grâce à l'accélérateur du numérique, eh bien, les gens viennent de plus en plus.
Vous parliez tout à l'heure, avant le reportage, du Black Friday. Une question, Frédéric Duval, est-ce que c'est raisonnable d'organiser un Black Friday en France quand tant de commerçants ont du mal à écouler leur stock? Ceux qui ne sont pas digitalisés, du moins, ils ne peuvent pas s'aligner, ils nous le disent dans les reportages sur des rabais à moins 80, moins 90%. Amazon se revendique bon citoyen. Est-ce que c'est citoyen de faire un Black Friday en France?
Mais je pense que c'est très citoyen de faire en sorte que l'ensemble des Français soient à égalité devant l'acte d'achat. Je pense que avant les fêtes de Noël, permettre à tous les Français de pouvoir s'équiper avec des biens d'équipement à des tarifs qui sont des tarifs intéressants, c'est quelque chose qui est citoyen. Et j'entendais dans votre reportage que des gens n'ont pas accès à des commerces qui soient des commerces en particulier la population parisienne peut avoir accès à des commerces partout dans la ville. Eh bien, moi je suis très heureux de faire en sorte que sur tout le territoire français, eh bien, nous puissions offrir les mêmes conditions d'achat, les mêmes conditions de livraison et les mêmes conditions de prix. Et donc, en particulier durant le Black Friday.
Au chapitre citoyen, où Amazon France paie-t-il ses impôts?
Ah, alors, je suis très content que vous me posiez cette question parce que c'est encore un fantasme qui a lieu en notre. Donc vous savez que
l'occasion
je paye,
point de parler de
je
chiffres.
Paye, bien sûr, je paye mes impôts en France. Amazon paye ses impôts en France et on le dit depuis très longtemps, mais maintenant on donne des chiffres depuis 3 ans. Donc on paye 310 millions de contributions directes à l'impôt en France en 2020. 310 millions, vous allez me dire. Est-ce que c'est suffisant? Parce que c'est la question. Est-ce que c'est suffisant? Donc, j'ai regardé les choses. Donc, on fait 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on paye 310 millions de contributions directes. Ça fait à peu près un peu plus de 4%. Alors, est-ce que c'est suffisant?
Deloitte. Sur les sociétés et bien au-delà de.
Deloitte a fait une étude sur la base du registre du commerce et sur la base de l'INSEE. Chiffre indiscutable. Ils ont regardé quelle était la contribution des différents secteurs.
C'est quand même très peu, 4%.
Mais non, j'y arrive. Ils ont regardé sur chacun des secteurs quelle était la contribution de chaque entreprise. Alors déjà, dans la première chose, ils disent la 100e plus grosse contribution en France, elle paye 188 millions. Donc 188 millions d'euros pour la première. Donc nous, on fait partie des 100 plus gros contributeurs. Et la deuxième chose, elle dit le commerce, en moyenne, quand je fais les calculs de l'étude de l'OAT, paye 4%. Je paye la moyenne de ce que paye le commerce en France en contribution directe en France.
Et quel impact aura pour Amazon le chantier qui est lancé sur l'impôt sur les sociétés mondiales, le minimum au niveau de l'OCDE?
Ah ben, je ne sais pas encore, on verra.
Vous êtes toujours concerné?
Mais je suis très solidaire et supporter d'une solution mondiale qui soit une solution qui s'applique à l'ensemble des sociétés et qui ne vise pas en particulier une société ou une autre. Mais effectivement, une solution dans le cadre de l'OCDE ou dans le cadre du G20, c'est quelque chose qui nous va très bien.
Deux textes sont en préparation au niveau européen pour encadrer l'activité des géants du numérique. L'une d'elles, le Digital Market Act, qui vise à éviter les abus de position dominante, à éviter en gros qu'une plateforme comme Amazon devienne un passage obligé pour quiconque veut vendre et se rendre visible en ligne. Vous comprenez cette préoccupation ou dites au contraire que l'Europe n'a tout simplement pas son nez à mettre là-dedans?
Nous comprenons toutes les initiatives qui consistent
à faire en sorte... Et qu'est-ce que vous en
pensez? Non, mais on comprend parfaitement que l'Europe ait envie de faire en sorte que les acteurs économiques puissent avoir accès à ce marché unique, qu'il soit physique ou digital, et que aucune entreprise ne puisse être défavorisée pour faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à cet espace économique.
Vous ne craignez pas d'en payer les pots cassés?
Non, pas du tout.
Il y a aussi le livre, pour terminer, on entendait dans le reportage une librairie à Creil. Heureusement pour elle, bon, il y a d'autres librairies dont elle est propriétaire. Il y a eu le prix plancher pour les livraisons adoptées par le Parlement cette semaine. Quelles conséquences pour vous?
Alors oui, j'entendais, c'était la librairie Entre les Lignes. J'ai regardé rapidement, elle est surtout concurrencée par Cultura, qui est dans la même ville de Creil.
C'est grande surface.
Hein, dans la même ville de Creil. Et ce que je dirais, c'est que d'abord, Amazon n'est pas concurrent de la librairie Entre les Lignes. La librairie Entre les Lignes, elle fait essentiellement de la vente de livres de nouveautés. Nous, on fait essentiellement du fonds de catalogue. 70% de ce que je vends a plus de 2 ans. Mmh. On vend partout en France. Et en ce qui concerne la loi qui vient d'être votée, écoutez, moi, je pense que c'est une mauvaise chose, même si on l'appliquera, évidemment. Mais aujourd'hui, des gens à Creil payent leurs livres, le livre de poche 6,50 € comme une personne en ville à Paris. Désormais, ces personnes-là paieront 6,50 € plus des frais de livraison. Et donc, on organise une inégalité territoriale au travers de cette loi.
Merci beaucoup. Merci à vous. 9h57 sur France Inter, l'heure de retrouver Sandrine Foulon pour sa chronique Ma vie au boulot. Avec cette question de Thierry, il travaille dans une grande entreprise européenne. Il a dû signer un avenant qui supprime la prise en charge de ses heures de déplacement alors qu'il continue à travailler 35 heures sur le site. Est-ce légal, vous demande-t-il, Sandrine?
Alors Thierry, il y a deux choses. D'abord, les trajets domicile-travail, ce n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. L'entreprise n'est pas tenue de vous dédommager. Elle a quand même l'obligation de vous rembourser la moitié des abonnements de transport en commun, y compris le vélo. Ensuite, il y a les déplacements professionnels qui dépassent les trajets habituels maison-bureau. Si vous devez vous rendre dans un autre établissement de l'entreprise ou encore faire ce qu'on appelle un grand déplacement qui implique que vous dormiez ailleurs que chez vous, l'emploi l'employeur doit prévoir une compensation sous forme de repos ou financière. L'entreprise ne peut pas, Thierry, sucrer ses heures de déplacement spécifiques.
Merci beaucoup Sandrine, c'est la fin de votre magazine Écho. La semaine prochaine, retour d'Alexandra Ben Saïd à ce micro.